Je vous ai posé une question donc aussi qu'il faudrait reprendre sur le travail intellectuel, qui n'est pas un travail qui transforme la matière a priori. Alors en quoi est-ce que c'est un travail humain?
Ce travail est justement sur une matière humaine. Je sais par expérience que mon intelligence n'est pas uniquement esthétique, intuitive, où je saisis directement le résultat. Je sais que mon intelligence est une intelligence qui a besoin de raisonner. Besoin de délibérer. Et dans les raisonnements, je sais que je raisonne selon des niveaux différents, j'allais presque dire des claviers différents. Je raisonne, quand il s'agit d'un problème proprement humain, en regardant ce que les hommes avant moi ont pu dire, ce que mes ancêtres ont pu dire, ce que les sages ont pu raisonner, et j'essaie de mettre en parallèle toutes ces données. J'ai un raisonnement dialectique, comme l'appelle Aristote, c'est-à-dire de regarder la valeur de ces diverses opinions des hommes et des sages. Et je mets ça en parallèle pour éveiller mon intelligence, pour que mon intelligence puisse vraiment découvrir comment elle pourra aller au-delà de ces positions qui sont contradictoires. Eh bien, je crois que là, il y a tout un travail au sens propre d'une intelligence, un travail par rapport à une matière humaine. Les livres, quand je dois faire une thèse et que je consulte 100 livres, cette consultation de 100 livres sur le sujet, quels sont ceux qui ont parlé sur tel sujet au cours des âges, cette topic historique implique un travail matériel, de lecture, et pas seulement une lecture rapide à toute vitesse, mais de réflexion. Et je dois discuter. Et donc le travail intellectuel, c'est le point de vue de notre raison humaine, au service de notre intelligence qui juge. Et ce travail intellectuel est un véritable travail, un labeur, qui est beaucoup plus usant du reste que beaucoup d'autres travail. On le sait très bien quand on matinée, on a consulté des livres et qu'on a essayé de les consulter le mieux possible pour voir sur tel sujet que dit tel philosophe, tel spécialiste. Mais ça use. C'est un travail intellectuel. Évidemment, la différence avec le travail manuel, c'est que je ne peux pas mesurer immédiatement le résultat. J'ai travaillé toute la matinée à consulter des livres. J'ai pris quelques notes. Mais qu'est-ce qui permet de dire qu'on a vraiment travaillé et qu'on n'a pas rêvé toute la matinée? Si je suis là comme un pion qui surveille, je dirais montrez-moi les notes que vous avez prises. Mais les notes qu'on a prises par rapport à un travail intellectuel, par rapport à des livres qu'on a lus, est très variable selon chacun. Quelquefois il suffit de mettre quelques mots, tout simplement, d'autres il faut recopier. Alors, je dois faire confiance à celui qui me dit qu'il a travaillé toute la journée. Vérifier. Alors là, on entre dans le domaine justement de l'intelligence. Et le problème de l'intelligence, c'est justement qu'elle se mesure elle-même. Et qu'il n'y a pas possibilité pour quelqu'un de mesurer mon intelligence. La qualité de mon intelligence, je la devine chez les autres. Je comprends. Telle personne est intelligente dans tel domaine. Et telle autre personne est très travailleuse dans tel autre domaine. La vieille distinction entre celui qui est fort en thème et fort en version exprime assez bien ça. Le fort en thème, c'est celui qui travaille beaucoup, qui bosse tout le temps, et qui, dans l'information, la logique mettrait en face ce travail intellectuel. Parce qu'on verrait bien là la nécessité de passer par tous les intermédiaires, de critiquer tous les intermédiaires pour arriver à cela.
D'accord. Donc, cette transformation de la matière, ce travail est pour vous la première grande expérience humaine que vous avez cherché à comprendre.
Oui.
Quelles sont les autres expériences, quelles sont les autres expériences humaines fondamentales que vous avez cherché à comprendre dans, dans
alors,
votre réflexion philosophique?
Il faut comprendre, là, avant de passer tout de suite à l'autre,
oui.
qu'il y a des paliers dans l'analyse de cette expérience. L'expérience du travail est l'expérience la plus complexe de l'homme. Elle est intérieure et elle est extérieure.
Mm-hmm.
Quand on travaille sur une matière. Donc, on la touche, cette matière. Et le travail implique la réflexion, l'utilisation d'un moyen, les conseils et tout ça. Il y a donc une complexité. Et le philosophe doit étudier, analyser toute la complexité du travail pour voir toutes les déviations possibles, voir tous les télescopages possibles. Et je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est toujours intéressant pour le philosophe d'avoir l'œil du cyclope, c'est-à-dire de voir les aspects monstrueux d'étude du travail. Et alors là, on aurait la praxis. La dialectique sur le travail montre bien comment on peut ne plus regarder le travail dans sa valeur de travail, mais dans une grande synthèse où il fait partie de tout un élément et on ne voit plus ce que c'est que le travail humain. L'autre grande expérience qui pour moi donne à l'anthropologie son autre dimension, c'est la découverte de ce que représente la responsabilité pour l'homme dans son activité, dans son action éthique. C'est un des grands problèmes d'aujourd'hui au point de vue philosophique. Sur quoi se fonde l'éthique? Sur quoi se fonde la philosophie morale, l'éthique? On voit très bien ça. On en reparlera tout à l'heure avec la bioéthique. Mais ça montre très bien que l'homme ne sait plus ce que c'est que l'éthique aujourd'hui. Et si on fait une petite topique là-dessus, c'est extrêmement intéressant. On a eu un grand philosophe de l'éthique, qui n'est pas très drôle pour moi, qui est Kant. Kant rejoint une position très ancienne, à sa manière, très différente évidemment de la position première, qui était aussi une recherche de ce que c'était que le fondement moral, les stoïciens. Les stoïciens apparaissent comme les grands moralistes de l'Antiquité. C'est la morale du devoir. Le principe très net au point de vue stoïque, au point de vue des stoïciens de l'aspect éthique, c'est je dois m'intéresser sur les points dont je suis responsable, sur tout où je ne suis pas responsable, je dois passer mon chemin sans m'en venir. Il y a des passages terribles, même dans Épictète là-dessus, à propos de la mort d'un ami. Si j'ai pas été responsable de la mort de mon ami, puisque je n'en peux rien, je ne dois absolument pas me désoler. Je n'en peux rien. Et je continue mon chemin. Mon ami disparaît puisque je ne suis pas responsable. Donc, ça ne me regarde pas. Oui, toute l'affectivité éthique, toute l'affectivité, je veux dire, humaine, disparaît devant la question du devoir. Alors, on est en présence d'une morale du devoir. Et le devoir prend toute sa dimension chez les stoïciens dans le point de vue politique. Vous savez que les stoïciens sont des hommes politiques. Marquez que le plus grand des stoïciens, je crois, au point de vue qualité, ce sera quelqu'un comme Épictète, qui est l'esclave devenu philosophe. Ce serait parfait dans notre monde d'aujourd'hui. Je crois qu'un esclave devenu philosophe dans le monde d'aujourd'hui, il aurait l'audience de tout le monde. Parce qu'on on verrait toute son évolution. Il aurait l'expérience de la misère et l'expérience qui est sortie de cette misère et qui peut parler. Et puis peut-être un langage d'une liberté folle par rapport au sénateur romain, lui qui était esclave. conscience, ce qu'en conscience je dois faire, et cette conscience est éclairée par l'impératif catégorique qui me relie à Dieu. Face à cette morale stoïcienne, fondamentalement religieuse, on voit dans notre monde d'aujourd'hui un Nietzsche qui voit rouge en face de Kant et qui ne peut pas supporter ça parce que pour lui, cette morale qui devrait permettre à l'homme d'être parfaitement homme met l'homme dans un état d'esclavage. L'homme devient l'esclave de la volonté de Dieu, de l'impératif catégorique religieux. Et donc, ça diminue l'homme, ça met l'homme en tutelle. Alors que le point de vue éthique doit permettre à l'homme de redécouvrir sa liberté. Alors, on aurait la morale de la liberté, l'éthique de la liberté. L'éthique de la liberté qui repose sur l'autonomie de l'homme. Si je ne suis pas autonome, je n'ai pas de liberté. On cherchera donc à voir où l'homme est parfaitement autonome. Et pour un Nietzsche, c'est assez significatif. L'homme est autonome dans son activité artistique, puisqu'il est le créateur. Et donc la créativité va fonder le point de vue de l'éthique du surhomme. Si je suis créateur, je suis libre de faire ceci ou cela. Et ça va très loin chez Nietzsche, puisque c'est ce point de vue-là qui va le mettre en opposition avec les traditions religieuses qui parlent d'un Dieu créateur. Pour lui, ce Dieu créateur des traditions religieuses devient intolérable si je veux aller jusqu'au bout de mon autonomie. Mon autonomie s'oppose à cela. Et mon autonomie me permettra d'avoir ce surhomme plein parfaitement libre qui pourra lui ordonner ce qu'il veut. Je prends exprès ces deux contraires pour moi qui sont extrêmement significatifs. Morale du devoir qui s'appuie sur la dépendance à l'égard d'une volonté première. Morale de l'autonomie et de la liberté qu'on aurait déjà découvert d'une certaine manière chez Descartes. Il faut se mettre dans un état d'indifférence, donc d'autonomie, complètement indifférent, une indifférence parfaite. C'est curieux parce que Descartes est plus du côté stoïcien. Alors on voit que dans le stoïcien, on peut avoir ces deux aspects. On pourrait avoir une morale de l'autonomie qui me permet d'être libre. En face de ces deux morales, je pourrais opter. Et je dis non, je peux pas. Ni l'une ni l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elle ne touche pas ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Et personnellement, c'était un des grands problèmes, je ne peux pas nier, de ma recherche philosophique. Quel est le fondement de la morale ? Sur quoi je puis, dans la débâcle d'aujourd'hui au point de vue éthique, ce qu'on disait tout à l'heure, cette réflexion de que l'homme moderne, le jeune d'aujourd'hui, a une peine énorme d'accepter le point de vue moral. Parce que on a identifié la morale à la vertu. Et que la vertu n'a pas tellement une bonne odeur pour le jeune d'aujourd'hui. On a identifié la morale et la loi. C'est encore d'autres conceptions, mais qui sont toujours un peu stoïciennes. Ils sont toujours un tout petit peu dans le sens de Kant. Et le jeune d'aujourd'hui sera beaucoup plus dans la perspective de Nietzsche, dans la perspective de Sartre, la morale de situation. Et donc, au fond, on laisse l'homme libre. Vous ne pouvez jamais juger de quelqu'un, puisque vous n'êtes pas à sa place. Donc, vous n'avez pas le droit de juger. Morale de situation. Mais qui va dans le sens de Nietzsche. Pas tout à fait la même chose, mais la néantisation est au point de départ de la liberté pour Sartre. Il faut qu'il y ait cette liberté absolue pour que je puisse choisir selon la situation dans laquelle je suis. Le grand problème aujourd'hui au plan du philosophique, c'est sûr, c'est d'essayer de découvrir quel est le fondement de la morale. Si je me mets dans la position classique, traditionnelle, thomiste, des gens très bien, je dirais la morale repose sur la nature humaine. Mais il y a une nature.
la loi naturelle, non ?
La loi naturelle, ce qu'on appellera la loi naturelle. Le point de vue de la nature et de la loi naturelle. Il y a des quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Bon, je respecte cela. Je ne veux pas l'attaquer. Je le respecte. Je dis, c'est impossible de fonder une morale là-dessus. Pourquoi ? Parce que, précisément...
Vous expliquez... Pourquoi est-ce que, selon vous, la nature humaine et la loi naturelle ne peuvent pas être le fondement de l'éthique ?
Parce que la loi naturelle, d'abord, j'en ai pas l'expérience immédiate. Si je suis croyant, très bien, j'ai une vision de sagesse. Au fond, la loi naturelle, c'est une vision de sagesse. C'est si Dieu est créateur de la nature humaine, de l'âme humaine, si Dieu est le créateur de l'âme humaine, il y a des intentions de Dieu profondes. Et ces intentions de Dieu profondes, je dois essayer de les redécouvrir progressivement. Mais Dieu peut me dicter la loi. Mais pour que Dieu me dicte la loi, il faut la foi. Il faut croire en ce Dieu. Et donc je ne peux pas fonder une morale humaine sur une foi. Et c'est ça. Là, de nouveau, je retrouve la scolastique. D'une théologie, une philosophie. Or, la philosophie ne peut pas provenir d'un fond théologique. Elle doit se fonder sur une expérience. Quelle est l'expérience humaine type qui me permet de fonder une éthique ? C'est là la grande question. Alors, je crois que si on voulait aller jusqu'au bout, on devrait regarder toutes mes expériences. Pour certains, l'expérience type, c'est l'expérience du tout petit enfant qui, de fait, aime sa mère. Alors, toute la morale se reposerait là-dessus. Mais le seul inconvénient, c'est que j'ai plus cette expérience-là. J'ai plus mon expérience de mon premier regard sur ma mère, du moins pas moi. Peut-être que certains l'ont, mais moi, je l'ai plus. Et même dans le sein maternel, si je veux aller jusqu'au bout. Donc, je ne peux pas fonder ma philosophie éthique sur une réminiscence. Parce que cette réminiscence, elle est tellement enjolivée par tout l'aspect de la mémoire, tout l'aspect passionnel, et quelque chose qui est une récupération. C'est une morale de récupération. Je récupère ça. Alors, je dois chercher l'expérience où j'ai le sens de la responsabilité, parce que je crois que c'est vraiment la responsabilité qui est l'expérience interne de la morale. Tout ce qui est en dehors de ma responsabilité n'est plus moral. Du reste, il suffit d'écouter aujourd'hui les avocats qui essaient de diminuer la moralité, la culpabilité de quelqu'un, sa responsabilité. Ils montrent qu'il n'a pas été responsable. Donc c'est toujours cette expérience interne de la responsabilité. Où ai-je la responsabilité à l'état le plus net et le plus pur? Ai-je une responsabilité sur les outils dont je me sers ? Non. Je peux avoir emprunté des outils à un ami, et donc je dois lui rendre ces outils dans le même état qu'ils étaient, un peu usés, mais dans le même état qu'ils étaient. Si entre deux, je les ai détraqués, et que je ne dis rien, et que je lui remets ça, j'ai commis une malhonnêteté. Je suis responsable des outils en fonction de celui qui possède ces outils. Donc c'est à l'égard de l'homme. La responsabilité, c'est toujours une relation d'homme à homme. C'est pas une relation d'homme à un objet matériel dont je me sers. J'ai une certaine responsabilité, c'est vrai, mais c'est pas la première responsabilité. Or, ce que je cherche, c'est le fondement de la responsabilité. Le fondement de la responsabilité, c'est donc une relation d'homme à homme. Je suis responsable de quelqu'un qui est à mon service, de quelqu'un qui travaille pour moi. Je suis responsable. Mais cette responsabilité n'est pas la première responsabilité. Je cherche la première, l'expérience type. Et là, je vois que cette responsabilité, je l'ai quand quelqu'un m'est lié affectivement par rapport à l'amitié. La grande responsabilité, elle naît dans l'amitié. C'est dans l'amour d'amitié, et je reprends l'expression amour d'amitié, C'est dans l'amour d'amitié où je suis lié à quelqu'un qui, librement, m'est relatif, où je suis relatif à lui. Et là, se noue profondément un amour, d'où une responsabilité mutuelle.
Est-ce que vous pourriez décrire un tout petit peu cette expérience de l'amour d'amitié ?
C'est cette expérience de l'amour d'amitié qui, pour moi, est le fondement de toute ma philosophie morale éthique. Alors, évidemment, on me dira tout de suite, mais cet amour d'amitié, il est rare. Et c'est vrai, c'est ce que les philosophes grecs disent. C'est très rare, une véritable amitié. C'est sûr. Mais d'autre part, l'expérience de l'amour d'amitié dans le désir qu'on a de trouver quelqu'un qui puisse être un véritable ami, je crois que cette expérience, elle est commune à tous les hommes. Tous les hommes ont cherché dans leur vie à trouver quelqu'un à qui ils pouvaient se confier. S'ils ne l'ont pas trouvé, ils restent malheureux. S'ils ont découvert quelque chose de plus, un dépassement dans une contemplation, alors ils découvrent quelqu'un d'autre à qui ils puissent parler. Mais on a besoin de découvrir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Parce que la responsabilité, elle est mutuelle. Et on peut s'appuyer. C'est donc, même si l'amitié dans sa perfection est rare, cependant, cette soif d'amitié, elle est présente dans le cœur de tous les hommes. Et on touche peut-être là, justement, le fondement profond de l'éthique. Dans cette expérience de l'amour et dans ce désir de l'amour d'amitié. Et à partir de là, je peux édifier une éthique. Alors, je vais essayer de voir toute la richesse de cette expérience de l'amour d'amitié pour comprendre comment l'analyse de l'amour d'amitié, cette expérience que j'ai de l'ami, va me donner tous les grands aspects de l'éthique. Dans ce cas-là, de plus profond. Et ce qui me permettra, justement, de voir que cette expérience de l'amour d'amitié me permet de développer, aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, une éthique profonde qui dépasse le point de vue de la morale du devoir. Parce qu'au fond, le devoir, où il s'appuie sur la foi, alors c'est autre chose. On est devant une théologie morale. Mais le devoir, il présuppose quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui est un étranger. Oui, je dois le respecter, mais pas plus. Or, puis-je fonder une morale, une éthique, sur uniquement la justice ? C'est pas suffisant. Parce que si je dois respecter l'homme, en définitive, un homme que je ne connais pas, pourquoi je dois respecter ? Alors je reviendrai voir. C'est que cet homme a quelque chose de commun avec moi. Et donc qu'il a en lui quelque chose que je dois respecter en lui pour qu'il me respecte. Et je découvrirai à partir d'un amour fondamental ce respect que je dois à l'autre. Cet amour de philanthropie.
D'accord.
La philanthropie. La philanthropie n'est pas une expérience immédiate.
C'est ça. Je voulais dire qu'on peut découvrir l'amour universel de l'homme à partir de l'expérience particulière.
Exactement.
Une relation d'amitié profonde avec un être.
Et cette expérience d'amitié me donnera, si je suis...
L'amour de l'homme.
Voilà, l'amour de l'homme en général. Mais c'est toujours une expérience. Et la philanthropie n'est pas une expérience première. Et c'est là, il suffit de regarder le gosse. Regardez des enfants. Ils ne sont pas tellement de respect les uns par les autres. Mais dès qu'ils commencent à aimer quelqu'un, un petit ami, ça change tout. Ah, on ne peut pas toucher au petit ami. Il faut être respectueux. C'est vrai chez le gosse, mais c'est bien plus vrai chez une personne adulte qui est responsable de ses actes. Cet amour d'amitié, si j'essaie de voir toute sa richesse, il présuppose un premier amour spirituel. Ce qu'on avait déjà vu un peu en voyant cet amour d'amitié. Il présuppose un amour spirituel. Cet amour spirituel.
Ce que vous entendez par spirituel, est-ce que vous le pouvez préciser?
Oui,
parce que les deux mots sont ambigus.
Oui, ils sont ambigus et équivoques. Cet amour spirituel, c'est un amour dans le sens volontaire, mais c'est encore plus équivoque, volontaire. C'est ça qui est très difficile. Notre
oblatif, alors.
Oui. Les psychologues diront un amour oblatif pour montrer que c'est un amour au-delà de l'amour passionnel. L'amour passionnel, j'accapare. Le gosse accapare ses jouets. Il a la passion de ça. Quand il commence à aimer un autre, ah, c'est tout à fait différent. Il lui donne. Et pour lui, l'amour oblatif se résume dans ce nom. Je sais, petit jouet. Ah, c'est pour toi. Le petit gâteau. Ah, c'est pour toi. C'est déjà le dépassement. C'est le dépassement d'aspect passionnel vers quelque chose de spirituel. Je dis spirituel, ce qui est au-delà de la passion. Alors, comme ce qui est au-delà de la passion implique une expérience intérieure, profonde, c'est cet appétit spirituel au-delà de la passion que j'appelle spirituel.
C'est relevant de l'esprit.
Qui relève de l'esprit.
La volonté.
Mais je n'en parle pas encore, puisque il faudra savoir qu'est-ce que c'est que ce fondement. Mais j'ai une expérience d'un amour, d'une intériorité beaucoup plus profonde, et qui n'est pas cet accaparement, qui est au-delà de l'accaparement, qui se donne dans un dépassement de soi. On dira extatique, il me fait sortir de moi pour regarder l'autre. Et c'est cet amour spirituel, est extatique, il me fait sortir de moi pour regarder l'autre. Et c'est l'autre qui m'attire, c'est l'autre qui est le bien personnel. M'attirer au-delà de ma passion et qui va me permettre de me donner, d'être relatif à lui dans cet état profond. Ce premier amour spirituel dont j'ai peu conscience et qui pourtant est ce qu'il y a de plus fort, il s'impose à moi. Pourquoi j'aime telle personne et que d'autres personnes me sont complètement indifférentes. Il y a toujours là quelque chose d'infiniment mystérieux et que je ne peux pas raisonner. Telle personne m'attire. Et elle a quelque chose qui fait que je suis spontanément porté vers elle. Et d'autres, au contraire, ça m'est indifférent. Je peux la rencontrer indéfiniment, ça ne me touche pas. Et les philosophes ont été intrigués par ça, et je comprends, c'est très intriguant, c'est quelque chose qui dépasse le point de vue rationnel et donc qui me secoue, qui me montre qu'il y a en moi quelque chose de plus radical, de plus profond que le rationnel. Le rationnel est quand même quelque chose de second, c'est pas ce qu'il y a de premier. On y reviendra là-dessus, parce que la philosophie doit toujours essayer de préciser la différence entre la raison et l'intelligence. Ce premier amour spirituel implique une certaine connaissance spirituelle de la personne qui m'attire. Et donc, l'intelligence est présente dans cet amour spirituel. Et si l'intelligence n'était pas présente, très vite, la passion l'emporterait. Donc cet amour spirituel implique bien une certaine connaissance de cette personne, mais pas un raisonnement, pas quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Cet amour a été plus fort que moi, et du reste on le dit, c'est plus fort que nous. On est porté vers cela. Dans l'écriture, il y a un exemple pour moi magnifique de cela, c'est la rencontre de Jacob et de Rachel, ce qu'on appellerait le coup de foudre. On a été subitement, il a été délogé, il a été pris, et à partir de là, il sera capable de faire n'importe quoi, parce que il est pris par cela. Cet amour premier, je peux l'accepter ou le refuser. Alors, c'est là où interviendra le premier moment de la liberté. Et je crois ça très important de voir que la liberté va naître à partir de ce premier amour. S'il n'y avait pas ce premier amour, il n'y aurait pas de liberté. Tandis qu'à partir de ce premier amour, je peux accepter ou pas accepter. Je suis en présence de cette liberté fondamentale dans l'ordre de l'exercice. Je peux me détourner de cette personne si je sais que cette personne qui m'attire peut être pour moi quelque chose d'impossible. Et donc à la place de m'apaiser, elle sera quelque chose d'impossible. Un amour que je ne pourrai jamais réaliser. Parce que cette personne qui m'a dit, elle est déjà mariée. Alors est-ce que je vais la détourner vers moi? Ou est-ce que je respecte? Si je l'aime, je respecte. Je sais qu'elle n'est pas pour moi, parce qu'elle est déjà liée. Alors, je peux accepter ou pas accepter. Au moment où j'accepte cet amour, à ce moment-là, je vais essayer de faire que cette personne, je puisse vraiment l'aimer. Il y aura le passage philosophique extrêmement important entre le bien qui m'attire, ce bien personnel, cette personne qui est mon bien qui m'attire, et regarder cette personne comme un bien capable de me finaliser. Le passage du bien à la fin. Si cette personne me finalise, alors elle mobilise. J'essaierai de mobiliser toutes mes forces en vue de l'atteindre. Et je serai en présence d'un amour qui se transforme comme une intention de vie. Elle mobilise toutes mes forces pour acquérir ce bien, acquérir, être proche de ce bien, l'aimer plus, connaître davantage et surtout faire que nous puissions avoir une intention de vie commune pour réaliser ensemble quelque chose d'important. À partir de là, je prendrai tous les moyens qui sont à ma disposition pour réaliser ce but. Je me trouve donc en face des grandes orientations de l'éthique la plus traditionnelle, l'amour. Spirituel, personnel, oui, je pourrais dire spirituel égale personnel, qui saisit ce qu'il y a de plus profond en moi. Cet amour qui se change dans une intention de vie, parce que ce bien devient ma fin. Et puis la recherche du moyen. Et dans la recherche du moyen, alors là, je suis en face d'une très grande variété. Je peux demander conseil, tandis que personne ne pourra me donner conseil par rapport à ce premier amour. Mais on pourra me donner conseil pour atteindre ce bien, atteindre cette personne, être plus proche d'elle. Et puis enfin, l'exécution. Là, je retrouve la morale kantienne. Et voyez comme la morale kantienne est loin. Avant de dire « fais ceci », mais il y a l'amour, il y a l'intention de vie, il y a le choix des moyens. Ça arrive donc en quatrième position. La morale kantienne arrive en quatrième position. Et avant,
la responsabilité arrive en quatrième position.
La responsabilité.
Elle découle de cette expérience.
La responsabilité, dans ce cas-là, de plus fort et d'efficacité, elle arrive à ce moment-là. Elle présuppose tout le reste. Et donc, si je ramène la morale à ça, je télescope tout ce qui est avant. Et je ne sais plus sur quoi repose ma morale. Parce que ma morale repose sur l'amour. Et un amour accepté, un amour consenti, un amour qui finalise ma vie.
Mais pour Kant, il y avait quand même le désir d'une universalité de cette responsabilité. Donc pour vous, c'est à partir d'une seule expérience véritable d'amour, d'amitié, que l'homme peut être responsable de son prochain de manière générale.
Oui,
parce ça, c'est très important, parce que là,
parce
vous rejoignez...
Parce que dans ce bien qu'est la personne humaine, je comprends qu'il y a quelque chose qui peut être le bien de n'importe quel homme. Mais le bien est toujours singulier. N'est pas pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas l'amour de l'humanité. Vous voyez, la philanthropie, elle n'est pas première. Et mettre la philanthropie en premier lieu, c'est confondre l'amour et la justice. Et c'est universaliser quelque chose qui ne peut pas s'universaliser. L'amour implique toujours un lien personnel d'une réalité singulière. Et c'est ça qui me prend. Mais cet amour spirituel, à la différence de la passion. Alors c'est là où il faut bien distinguer.
avez des qualités sensibles.
Qui a des qualités sensibles et quelque chose qui ne peut pas s'universaliser. Donc je ne peux pas fonder ma morale sur le point de vue de la passion. Et là, les stoïciens ont très bien vu. Mais les stoïciens ont été trop loin parce qu'ils ont considéré que la passion, alors, est mauvaise. Parce que justement, ils ont vu que le point de vue du bien est universel. Et la passion ne peut pas être universelle, donc ils l'ont nié. Tandis que si le bien spirituel et personnel, il ne s'oppose pas à la passion. Parce que je sais très bien que la personne humaine implique en elle-même non seulement l'esprit, mais aussi tout l'aspect affectif, tout l'aspect singulier de la passion. J'aime avec tout ce que je suis. J'aime avec mon esprit et mon corps, avec ma sensibilité, mon affectivité, mon imagination. Mais je sais que mon imagination peut l'emporter, que la passion peut l'emporter. Et c'est là où j'aurai toujours le souci de tailler ces passions, cet imaginaire, pour que le point de vue spirituel l'emporte tout le temps. Et que j'aime pleinement de ce point de vue spirituel. Et je taillerai ces passions. Et c'est là alors où va intervenir la question des vertus. Je sais que pour aimer d'une façon parfaite, au point de vue spirituel, personnel, pour que l'amour d'amitié demeure, les vertus sont nécessaires. Mais les vertus ne sont pas premières. Elles sont des moyens en vue de permettre à l'amour spirituel ce dépassement. Les vertus sont là pour tailler cet arbre pleine vie et qui risque toujours d'avoir une vie excessive du côté sensible, du côté passionnel. Alors il faut ces fameuses vertus cardinales, ces vertus fondamentales qui tempèrent l'irascible et le concupiscible. Mais on voit bien qu'une telle éthique n'est pas l'éthique de la vertu. Ce n'est pas l'éthique du devoir. C'est l'éthique du bonheur de l'homme, c'est-à-dire de la finalité. C'est l'éthique de la personne. Cette personne n'est pas en opposition avec le point de vue de la nature. C'est bien évident. Si je veux comprendre ce que c'est que l'homme, je vois qu'il y a quelque chose de commun dans tous les hommes. Même les hommes les plus différents, même un bandit, si je suis un saint, il y a encore quelque chose de commun entre le saint et le bandit. Et le saint le saura bien. Le bandit le saura moins bien. Mais le saint le saura bien. Il le saura très bien que le bandit, il est proche de lui, qu'il y a quelque chose de commun entre le bandit et le saint. C'est ce qu'on appellera la nature humaine. Et là, je découvre progressivement qu'en effet, il y a une nature humaine. Mais l'éthique ne s'en occupe pas. C'est un fondement. L'éthique s'occupe de l'opération humaine et de l'opération volontaire, de cette opération d'amour spirituel qui va être source de la liberté. Au-delà de la liberté, il y a l'amour. Et au-delà de la vertu, il y a la liberté. Et donc il faut bien graduer ces différents aspects au point de vue humain pour comprendre ce que représente cette éthique de l'amour d'amitié. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que dans cet amour d'amitié, si je l'analyse, je vois que toutes mes opérations éthiques sont présentes. L'amitié représente la fleur de mon éthique et le bourgeon de l'éthique et le fondement de l'éthique. Tout est présent, si je l'analyse bien. Et c'est pour ça que je peux progressivement dire que je crois qu'après Nietzsche, après Kant, après Sartre, la seule réponse à leur donner pour reprendre une véritable éthique, c'est l'éthique de l'amour d'amitié. Et les jeunes d'aujourd'hui comprennent cela. Et c'est ça qui, pour moi, est une confirmation extraordinaire. C'est que quand on présente aux jeunes une éthique de l'amour d'amitié, ils marchent. Ils n'ont plus d'objection. Si vous présentez une éthique du devoir, une éthique de la responsabilité, une éthique de l'impératif catégorique, ça marche pas. Une éthique de la vertu, ça marche pas. La vertu pour la vertu, ça signifie rien du tout. Donc, ça qui caractérise la jeunesse aujourd'hui, aussi bien en Orient qu'en Occident, aussi bien en Asie qu'en Europe. Il y a quelque chose de commun dans la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle veut être vraie. Elle ne veut pas qu'on lui demande de faire certaines...
L'argument d'autorité ne fonctionne plus. C'est-à-dire l'argument de la nature humaine. Ah oui, théologique.
Ouais. Parce que c'est au fond, en définitive, un argument d'autorité. Alors, il faut essayer de reprendre. Je sais très bien que c'est pas commode, parce que ça demande une réflexion sur les différents aspects. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je vois que là, je peux répondre successivement à toutes les formes différentes d'éthique, même l'éthique épicurienne. Parce que l'amour d'amitié est source
en même temps un peu idéaliste de penser qu'il puisse que tout homme peut faire cette expérience de don, de bienveillance. Par exemple, les psychologues freudiens soulignent bien que, enfin pour eux, que la gratuité n'existe pas, par exemple, du don. Il y a toujours une concupiscence, toujours un désir d'être aimé lorsqu'on aime. Est-ce que vous pensez, croyez à la gratuité du don? Est-ce que vous croyez à la...
Mais là encore, on pourrait mettre Sartre en face de ce que Sartre cherche, la gratuité. C'est pas... C'est ce qu'il y a intéressant dans ça. Il cherche la gratuité. Et il voit bien qu'au fond, le trésor de l'homme, c'est la gratuité. Tandis que du côté psychanalytique, de Freud, il n'y a plus du tout. Pourquoi? Parce que je ne regarde que le conditionnement de l'homme. J'ai cette petite expérience avec les Freudiens, ce qui m'a beaucoup intéressé. Et là, ça m'a beaucoup éclairé, du reste. Puisque ce sont des Freudiens qui eux-mêmes m'ont demandé de venir dialoguer avec eux. Ils étaient partis de ce point de vue-là. Vous avez une philosophie d'expérience, nous aussi. Donc, on peut s'entendre. Je dis très bien, entendons-nous. Et acceptons cela. Mais comme principe du point de départ, c'est qu'on soit dans une franchise absolue. Ce qu'un Freudien peut accepter et qu'un philosophe réaliste peut accepter. On ne se fera aucune concession mondaine et d'acceptation. On dira tout le temps. On dira jusqu'au bout. Et alors, comme de fait, c'était peut-être pas suffisamment drôle de se trouver 2-3 philosophes en face de 3-4 psychanalystes. C'est trop sérieux. On avait dit, on apportera nos amis. Puisqu'il y aura quand même un fond comme ça. Dans un théâtre, il faut toujours le cœur. Et alors, il faut qu'il y ait des amis qui soient là pour applaudir, pour soutenir, pour aider. Là, on avait amené des amis. Les uns et les autres, c'était convenu. À la fin, on avait discuté pour bien montrer le point de vue. Les amis s'en vont. Je reste avec mes psychanalystes. Première réflexion. Oh, père, cet ami que vous avez amené, il aurait besoin d'un petit peu de psychanalyse. Oh, ça se voit tout de suite. On va dire, écoutez, est-ce que je vous ai amené des amis ou des clients? On a dit qu'on a des amis. Mais si on amène des amis, on les reçoit comme des amis. C'est-à-dire comme des hommes qu'on respecte. Même s'ils ont de très gros défauts. Même s'ils sont très malades. On cherche en eux ce qu'il y a de bon. Vous, tout de suite, vous voyez le client. Donc, vous voyez bien. Vous n'êtes incapable d'une expérience humaine. Et vous avez que l'expérience clinique. Qui n'est pas une expérience humaine. Puisque vous êtes en face d'un malade. Et alors là, ça m'a fait comprendre. Tous les deux, nous partions de l'expérience. Mais moi, j'essaie d'avoir une expérience humaine. Et c'est une expérience clinique. Tout le freudisme repose sur l'expérience clinique. Si Freud avait été en face d'un saint, Freud n'a eu cette expérience que devant des malades. Et il a construit l'humanité à partir des malades. Alors moi, je ne construis pas l'humanité à partir des malades. J'essaie de comprendre des expériences humaines, c'est ça qui m'intéresse. Et typiquement humaines. Pour les malades, on en rencontre partout. Et on est tous un peu un malade. Mais c'est c'est pas ça qui m'intéresse en premier lieu. Je ne bâtis pas ma philosophie sur l'aspect négatif. Alors là, on touche quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que je crois que l'aspect de la modernité, c'est le primat de la négation sur l'affirmation. Et dans ce dialogue avec les psychanalystes, des points de départ, je voyais d'un côté leur expérience clinique. Donc, on regarde le malade et on cherche à voir le malade, l'aspect négatif. Alors que dans une expérience humaine, on est intéressé de voir quelqu'un de nouveau, qui m'apporte un air nouveau. J'aime d'être dans l'altitude avec des gens qui respirent. Je respire un air frais. Et au point de vue humain, ça m'intéresse toujours de retrouver quelqu'un qui m'apportera quelque chose de nouveau. Mais c'est positif. Donc, le point de vue psychanalytique, je dirais tout simplement, ne peut pas être philosophique. Que le médecin recherche la maladie, très bien. Le médecin est là pour les malades. Et le philosophe est là pour l'homme. Et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est ce que je disais du reste dans un dialogue avec des prêtres ouvriers. Vous êtes là pour trouver l'ouvrier. Moi, je suis la philosophe pour trouver l'homme. Or, on ne peut pas savoir ce que c'est que l'ouvrier sans savoir ce que c'est que l'homme. Et donc, il faut d'abord découvrir l'homme avant de découvrir l'ouvrier. Et je ne comprendrai jamais parfaitement ce que c'est que l'ouvrier si je ne sais pas ce que c'est que l'homme. Donc, on retrouve toujours la même distinction du début. Plan philosophique, la distinction entre la finalité et le conditionnement. Je peux y aller.
Allez-y.
Cette philosophie éthique qui se fonde sur l'expérience de l'amour d'amitié, encore une fois, en respectant que cet amour d'amitié peut avoir des modalités extrêmement diverses, mais ce qui est sûr, si le philosophe a une expérience profonde de l'amour d'amitié, son éthique ira beaucoup plus loin que si vraiment il reste uniquement sur une camaraderie. Alors ça n'ira pas très loin. Cette petite éthique bourgeoise qui n'ira pas très loin. Mais il y aura quand même quelque chose. Cette éthique de l'amour d'amitié va permettre de comprendre au plan philosophique ce que je crois très important aujourd'hui, l'ouverture vers le point de vue politique. C'est autre chose. Cette éthique personnelle. Mais comme cette éthique personnelle assume la nature, on va tout de suite découvrir que l'homme est un animal politique. L'homme n'est pas fait pour vivre seul, et l'amour d'amitié le montre bien. Et cet amour d'amitié poussé dans toute son extension va fonder, va réaliser, plus exactement, la famille. Il faut aujourd'hui donner une philosophie de la famille qui est le fondement de la philosophie politique. Et je crois que c'est très important au plan philosophique de réfléchir sur le point de vue de la famille. Là, Aristote est le premier philosophe de la famille. Hésiode en a parlé, mais d'une manière qui n'est pas très, 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 très familiale. C'est plutôt uniquement l'homme qui regardait la nécessité d'avoir une servante pour l'aider. Et pour lui, ce qui est important, c'était d'épouser à côté des bœufs qui sont là pour le travail, une femme qui ne soit pas le frelon de la ruche. Et donc, une femme qui sache travailler. Il y a des passages extrêmement intéressants d'Hésiode là-dessus. Mais c'est une philosophie de la famille tout à fait rurale, paysanne et extrêmement pratique, qui, de fait, je crois, a existé de tout temps. Si je prends une philosophie de la famille dans un point de vue beaucoup plus profond sur l'amitié, alors je crois qu'Aristote est le premier à avoir donné une philosophie de la famille à la manière d'Aristote. Je ne répéterai pas ce qu'Aristote dit, c'est impossible. Parce que là, il est justement dans le conditionnement humain. La famille du temps d'Aristote n'est pas astuce que le père de famille et l'époux n'est pas le chef d'État. Et quand le chef d'État est le pater familias, ça va plus du tout. On tombe dans ce qu'aujourd'hui on appellerait l'aspect du paternalisme, et qui est justement quelque chose qui n'est plus proprement politique, qui est une extension de la famille, qui peut avoir du bon dans certaines situations, mais qui n'est pas le point de vue politique. Pour Aristote, la famille implique l'aspect de l'économie. La relation du maître et de l'esclave est impliquée dans la famille. Et la famille implique cette relation du maître et de l'esclave, cette relation de l'époux et de l'épouse, cette relation des parents et des enfants pour l'éducation. C'est le fondement. Aujourd'hui, la famille demeure bien l'aspect fondamental au point de vue politique. Mais l'économie est sortie de la famille. Ça, ce serait aussi très intéressant à voir au point de vue philosophie. À quel moment l'économie a quitté la famille pour être une économie directement politique? Aujourd'hui, l'économie est politique. Et si on pousse un peu plus loin, on verra que le politique est commandé par l'économique. C'est très curieux de regarder l'économie familiale, Aristote, l'économie politique. Philosophiquement, c'est très important de comprendre comment l'efficacité c'est l'amour des conjoints, de l'époux et de l'épouse. Et aussi, garder la fécondité, garder le soin d'élever les enfants dans une première éducation et leur permettre de pouvoir acquérir progressivement une certaine autonomie. Et donc à côté du problème de la famille, il y aura le problème de cette première éducation familiale qui est irremplaçable, parce que toute éducation repose sur l'amour et que la famille est le lieu où l'amour doit être gardé. Et doit être gardé et où l'amour doit progresser. Dans la mesure où la famille va subir une emprise politique de plus en plus forte et une emprise économique de plus en plus forte, la famille risque de perdre sa finalité propre, qui est d'être gardienne de l'amour. C'est comme disait un psychanalyste qui est mort maintenant. Mais c'était assez impressionnant, son jugement. Il avait été appelé à Londres. Il était canadien de langue anglaise. Il avait été appelé à Londres pour s'occuper d'enfants meurtriers. Il avait passé toute son année, cela, et c'était 7 médecins à réfléchir là-dessus. Et durant son année, il avait vu 400 cas d'enfants meurtriers, de, je crois, 7 ans à 14 ans, quelque chose comme ça. Et ces médecins avaient réfléchi sur ce que représente le point de vue de ces meurtres d'enfants. D'où ça vient? Comment les comprendre? Ils étaient arrivés à cette conclusion. Ces enfants meurtriers ont manqué d'amour. Vous voyez, l'irascible a dominé parce qu'il n'a pas pu être dépassé par le point de vue de quelque chose de plus grand. Et alors, quand la passion de l'irascible s'emballe parce qu'elle n'est pas dominée par quelque chose de plus grand, on arrive nécessairement à des meurtres. Ces psychanalystes déclaraient ces enfants ont manqué d'amour. Et de là, il passa un point de vue beaucoup plus général. Il manque d'amour dans le monde d'aujourd'hui. L'économie arrive à tarir la source qui est en nous, cette source fondamentale de cet amour spirituel qui permet l'amour d'amitié. Touche là quelque chose qui est un mal terrible de notre monde d'aujourd'hui. C'est que si l'économie l'emporte sur tout et veut tout mesurer, il risque de tarir notre cœur et d'empêcher notre cœur d'aimer. Je crois que là, il y a aussi un péril auquel on doit être attentif. La famille est gardienne de l'amour. Et la première éducation de la mère, c'est d'éveiller à l'amour. Elle doit être source d'amour pour ses enfants. Et étant source d'amour pour ses enfants, elle doit éveiller l'amour. S'il n'y a pas cette source première pour éveiller l'amour, très vite, l'enfant développera son intelligence, mais ne développera pas son amour et ses passions. Alors il risquera d'y avoir un déséquilibre très fort. Et au bout d'un certain temps, il y aura une désaffection par rapport au travail, parce qu'il n'y aura plus l'amour. Et plus profondément, il y aura un manque de développement de l'intelligence et de la raison. Puisque c'est l'amour qui permet ce développement de l'intelligence et de la raison. Et qui est en essence. aspect politique, c'est, à partir de la famille, comprendre que l'homme a besoin d'un milieu autre que la famille pour permettre un développement du bien-vivre. C'est en vue de ce bien-vivre que la famille va entrer en contact avec d'autres familles et progressivement former ce tissu politique. L'aspect politique, c'est donc les relations qui peuvent exister entre hommes en vue du développement plaidé de l'homme, non pas en vue de découvrir la finalité propre de l'homme. Je crois que toujours, les finalités propres de l'homme sont au-delà du point de vue politique. Mais l'aspect politique, c'est de permettre un milieu, un conditionnement le plus favorable possible à ces éclosions d'amour, d'amitié, à ces éclosions de recherche de la sagesse, à ces éclosions du développement artistique, permettre l'homme de trouver un milieu dans lequel il aura confiance dans l'autre, dans l'homme. Ayant confiance dans l'homme, il pourra coopérer avec lui, coopérer dans un aspect du travail, dans un aspect artistique, dans un aspect d'amitié. La finalité propre de ce conditionnement humain politique, c'est de permettre la concorde entre les citoyens, c'est-à-dire une confiance qu'on a les uns par rapport aux autres. Quand cet aspect de finalité disparaît au niveau politique, on est en face d'une lutte de rivalité au plan économique, au plan de l'efficacité. Et quand il y a cette lutte de rivalité au plan économique, on risque toujours de se laisser dominer par l'autre et de ne plus avoir cette confiance entre eux. Il n'y a pas de confiance au niveau purement économique. Au point de vue économique pur et simple, l'homme risque toujours d'être pour l'homme un rival. Une communauté humaine risque toujours d'être pour une autre communauté humaine rivale. Seul un amour de confiance, un amour vrai, au point de vue humain, permet ce dévassement et permet de comprendre que le développement économique se fait dans la paix et la concorde.
Est-ce que vous pourriez définir la notion du bien commun par rapport au bien personnel que vous aviez défini dans l'éthique ?
Pour être découvert. pas une véritable fin au sens absolu, et qu'on appellera le bien commun. Le bien commun, c'est ce que les citoyens d'un même pays, d'une même cité, recherchent ensemble, en vue d'être plus parfaitement homme, en vue d'épanouir en eux ce qui a le meilleur d'eux-mêmes dans leur engagement politique, pas le meilleur d'eux-mêmes dans leur engagement personnel. Et c'est cela qui serait intéressant à préciser. On voit des positions variées, je pense ici à la position de Maritain, entre le point de vue de l'individu et de la personne, comme dit Maritain, que la personne a sa fin propre et que l'individu est engagé dans le bien commun. Il y a quelque chose de juste, c'est sûr, mais je crois qu'il vaut mieux prendre comme distinction la distinction de la finalité des fins propres, personnelles, qui nous donnent le bonheur, et d'une fin qu'on découvre ensemble dans une communauté politique pour être plus épanoui, pour mieux vivre dans une confiance mutuelle en vue de laisser à chaque personne humaine la liberté de son choix le plus personnel dans l'ordre de l'amitié ou dans l'ordre plus profond, nous verrons, au point de vue religieux. Le bien commun de l'État ne peut pas remplacer le choix personnel de chaque individu. Le rôle de l'État n'est pas de rendre bien heureux, de donner le vrai bonheur, mais de permettre ce bonheur et de ne pas mettre de barrière à un développement authentiquement humain et authentiquement personnel.
Et où est-ce que vous situez la justice ?
Alors, comme déjà dans l'éthique personnelle, on voit que la finalité humaine est de réaliser un amour d'amitié le plus parfait qui soit. Tout amour d'amitié implique le respect des amis entre eux. On découvre donc, à partir de l'amour d'amitié, une justice très particulière, qui est le respect de l'homme, qui est la justice fondamentale. Cette justice s'ouvre à tous les hommes à partir de l'amitié, c'est ce qu'on avait vu. L'amour d'amitié tend à connaître l'homme et la nature de l'homme dans ce qu'il a de plus profond, et donc de respecter chaque individu dans son droit le plus foncier, le droit à vivre, le droit à progresser, à grandir, le droit à être un être qui se développe bien et qui découvre sa finalité. La justice va respecter ce droit fondamental à l'égard de l'homme. Et cette justice va se préciser grâce aux lois que ceux qui ont la charge de gouverner doivent réaliser. Et ceci donne à la communauté politique son sens le plus précis, puisqu'elle va préciser là l'orientation qu'elle va donner aux citoyens pour leur permettre de bien vivre et de découvrir leur personnalité propre, leur finalité propre. Nous touchons là, je crois, à ce qui est principal dans un État, c'est le point de vue de l'éducation de ses citoyens. Et ceci fait partie du bien commun. C'est même peut-être la chose principale dans le bien commun. Le bien commun n'est pas principalement au niveau économique, mais le bien commun est principalement au niveau de l'éducation des citoyens. En prenant éducation des citoyens, la païdéia grecque, dans un sens très profond, c'est aussi l'instruction. C'est permettre à chaque citoyen de pouvoir développer ses dons d'artiste, ses dons de connaissance. réfléchir immédiatement à la qualité du bien commun de la France, par exemple, actuellement. On verrait si elle est bien gouvernée ou pas. Puisque c'est le fruit d'un gouvernement sur les citoyens, leur permettre de se développer et en se développant d'apporter chacun ce qu'ils sont de meilleur au point de vue de leur activité pour le bien des autres. Et en même temps, apportant ça, ils vont éveiller chez d'autres plus jeunes le désir, eux aussi, de coopérer. Il faut qu'il y ait toujours une certaine, je dirais, pas une séduction, mais une certaine attraction vers le bien commun. Il faut que les citoyens aiment leur pays et qu'ils aiment que leur pays s'enrichisse, que leur pays se développe au point de vue de la culture et qu'ils trouvent dans leur pays un milieu dans lequel ils puissent s'épanouir. Autrement, un pays va nécessairement se laisser emporter par des biens qui ne seront plus vraiment humains.
Est-ce que la solidarité n'est pas non plus une dimension très importante du bien commun? Le partage, est-ce qu'il peut y avoir un rôle entre les citoyens,
la solidarité ça peut se faire à un niveau individuel. Dans le travail.
Oui.
Je mettrais plus la solidarité dans le travail.
Plutôt
que parler
de ta... Il faudrait une redistribution des richesses.
Oui. Alors là, c'est la question extrêmement délicate de savoir jusqu'où doit aller le droit de propriété. Étant donné que le droit de propriété n'est pas un droit rigoureusement naturel au sens absolu, bien qu'il s'enracine dans la nature. Mais le droit de la propriété, elle est pour permettre le développement des citoyens. Et donc, le droit de propriété...
Mais quand il y a des inégalités extrêmement fortes...
Par
l'héritage des gens qui héritent des milliards et d'autres qui naissent avec rien, est-ce que là, il n'y a pas une injustice fondamentale qu'il appartiendrait aux sociétés de rééquilibrer?
De rééquilibrer avec tout ce que ça peut représenter, justement, d'intervention de l'État par rapport à ce bien de propriété. Le droit de propriété n'est pas un absolu. Quand le droit de propriété réalise des injustices flagrantes, et le droit de propriété, à ce moment-là, ne devient plus moral. Et le droit de propriété, c'est ça qui me semble important, il était lié à la famille, pour permettre à la famille de vivre. Mais quand le droit de propriété dépasse de beaucoup la famille, et fait qu'on a un pouvoir étonnant, mais sur quoi ça repose? Il n'y a plus de fondement. Ça n'a plus de fondement, c'est pas parce qu'on a eu un grand-père qui est un génie qu'on doit créer des injustices à cause du génie du grand-père. On devrait gérer les biens qu'on reçoit en fonction d'une justice qui doit être une justice qui respecte l'état de la communauté actuelle et qui doit permettre constamment une révision de ces différents biens par rapport à la communauté. Permettre un usage de chacun par rapport à ses biens.
On va changer la question.